Mardi 11 août. Jules. Je me souviens. À l'arrière du camping-car, des oreillers entassés entre nous pour marquer la limite entre ton territoire et le mien, en route pour passer l'été à Beckford, toi fiévreuse et surexcitée, impatiente d'arriver, et moi livide, me retenant de vomir, le mal des transports. Je ne me suis pas seulement souvenue, je l'ai senti. J'ai ressenti la même nausée cet après-midi, recroquevillée au-dessus de mon volant comme une vieille dame, à conduire n'importe comment, trop vite, à couper les virages, à freiner trop brutalement, à me ranger précipitamment en apercevant des voitures en face. J'ai éprouvé un sentiment qui ne m'était pas inconnu. Chaque fois qu'apparaissait une camionnette fonçant vers moi sur une petite route de campagne, je me disais « Je vais faire un écart. Je vais le faire. Je vais foncer droit sur elle. » Ce n'était pas que j'en avais envie, mais plutôt que je m'y sentais obligée, comme si, au dernier moment, j'allais perdre mon libre arbitre. C'est la même sensation quand on se tient au bord d'une falaise ou du quai d'une gare et qu'on se sent poussé par une main invisible. Et si je faisais juste un pas de plus? Et si je tournais juste un peu le volant? Pas si différente, toi et moi, après tout. Ce qui m'a frappée, c'est de me souvenir si bien. Trop bien. Comment se fait-il que je puisse me remémorer aussi clairement des choses qui me sont arrivées quand j'avais 8 ans, alors qu'il m'est impossible de savoir si j'ai bien demandé à mes collègues de déplacer une évaluation client à la semaine prochaine? Ce que je voudrais retrouver m'échappe, et ce que j'essaie tant d'oublier me revient sans cesse. Plus j'approchais de Beckford, plus c'était criant. Le passé surgissait devant moi, inattendu et tenace, comme une nuée de moineaux s'envolant d'un buisson. Cette nature luxuriante, ce vert incroyable et le jaune vif, acide, des ajoncs sur la colline, a presque brûlé mes rétines et a fait défiler dans ma tête une bobine de souvenirs. À 4 ou 5 ans, papa qui m'emmène dans l'eau. Moi qui me débat en poussant des cris de ravissement, toi qui sautes depuis les rochers dans la rivière et qui escalades plus haut chaque fois. Les pique-niques, sur la rive sablonneuse du bassin. Le goût de la crème solaire sur ma langue. Les gros poissons marrons que j'attrapais dans l'eau stagnante et boueuse en aval du moulin. Toi, qui rentres à la maison, un filet de sang sur la jambe après avoir mal jaugé un plongeon et qui mords dans une serviette de table pendant que papa nettoie ta coupure parce que tu te refuses à pleurer. Tu te refusais à pleurer devant moi. Maman, dans une robe d'été bleu clair, pieds nus dans la cuisine, qui prépare du porridge pour le petit déjeuner, la plante des pieds couleur rouille foncée. Papa, assis sur la berge en train de dessiner. Plus tard, plus grande, toi avec un short en jean et ton haut de maillot de bain sous ton t-shirt, qui fait le mur un soir pour aller retrouver un garçon. Pas n'importe lequel. Le garçon. Maman, plus maigre et plus frêle, endormie dans le fauteuil du salon. Papa, qui disparaît pour de longues promenades avec la femme du pasteur, cette dame ronde et pâle, toujours coiffée d'un chapeau. Je me souviens d'une partie de foot. Les chauds rayons du soleil sur l'eau, tous les regards braqués sur moi. Les larmes ravalées, le sang sur ma cuisse, les rires qui résonnent dans mes oreilles. Je les entends encore. Et en fond, le clapotis de la rivière. Mon esprit était tellement accaparé par l'eau, par la rivière, que je ne me suis même pas rendu compte que j'étais arrivée. J'étais là, au cœur du village, mais c'était comme si j'avais fermé les yeux et qu'on m'y avait transporté par enchantement. Et voilà que je roulais lentement dans des rues étroites entre des rangées de 4x4, un flou de pierres roses en périphérie de ma vision. Je me suis approchée de l'église, puis du vieux pont, méfiance à présent. J'ai gardé les yeux sur le bitume devant moi en m'efforçant de ne pas regarder les arbres ni la rivière, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis garée sur le bord de la route et j'ai coupé le moteur. J'ai levé les yeux, j'ai retrouvé les arbres, j'ai retrouvé les marches en pierre, recouvertes de mousse verte que la pluie rendait toujours horriblement glissante. J'ai eu la chair de poule. Je me suis souvenue de ceci. La pluie glacée frappant la route, les gyrophares bleus disputant aux éclairs le droit d'illuminer la rivière et le ciel. De petits nuages de vapeur devant des visages paniqués. Et un petit garçon, pâle comme la mort, tremblant, qu'une policière aidait à gravir les marches. Elle lui agrippait la main, ses yeux angoissés grands ouverts, et tournait la tête dans tous les sens en appelant quelqu'un. Je ressens encore ce que j'ai ressenti cette nuit-là. un mélange de terreur et de fascination. J'entends encore tes mots dans ma tête. Qu'est-ce que ça fait? Tu imagines voir ta mère mourir? J'ai détourné le regard. J'ai redémarré la voiture et je suis repartie. J'ai traversé le pont, retrouvé les lacets de la route. J'ai guetté le virage, le premier sur la gauche. Non, pas celui-là, le deuxième. Et il est apparu, ce mastodonte de pierre brune, le vieux moulin. Un picotement a parcouru ma peau, froide et moite. Mon cœur s'est mis à battre dangereusement vite. J'ai passé la grille ouverte et je me suis engagée dans l'allée. Un homme attendait, concentré sur son téléphone. Un policier en uniforme. Il s'est approché d'un pas rapide et j'ai baissé la vitre. « Je suis Jules », ai-je dit. « Jules Abbott, je suis sa sœur. » « Oh, oui, bien sûr, oui. » L'air gêné, il a lancé un regard vers la maison. « Écoutez, il n'y a personne pour l'instant. La fille, votre nièce, elle est sortie, je ne sais pas où. » Il a attrapé la radio à sa ceinture. Je suis sortie de la voiture. « Je peux entrer ?» J'ai regardé la fenêtre ouverte, celle de ton ancienne chambre. Je pouvais encore te voir assise sur le rebord, les pieds pendant dans le vide. Ça m'a donné le vertige. Le policier a hésité. Il s'est détourné pour parler à voix basse dans sa radio avant de revenir vers moi. « Oui, c'est bon. » J'ai monté les marches, presque aveugle. Mais j'entendais le bruit de l'eau et je sentais l'odeur de l'humus, de la terre à l'ombre de la maison, sous les arbres, là où les rayons du soleil ne pénètrent jamais, la puanteur âcre des feuilles qui pourrissent. Et cette odeur m'a ramenée dans le passé. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, je m'attendais presque à entendre la voix de ma mère m'appeler de la cuisine. Sans même y penser, j'ai su que je devais mettre un coup de hanche dans la porte au moment où elle frottait par terre. J'ai fait quelques pas dans l'entrée et j'ai refermé derrière moi, laissant mes yeux s'habituer aux ténèbres, frissonnant sous l'effet du froid soudain. Dans la cuisine, on avait installé une table en chêne sous la fenêtre. La même qu'avant ? Elle lui ressemblait, mais ce n'était pas possible. La maison avait changé de propriétaire un trop grand nombre de fois entre-temps. J'aurais pu m'en assurer en allant dessous à quatre pattes pour chercher les marques que toi et moi y avions gravées, mais mon cœur s'est emballé au simple fait d'y penser. Je me souviens comme elle captait le soleil le matin, et que si on s'asseyait côté gauche, face à la cuisinière, on pouvait regarder le vieux pont, parfaitement encadré par la fenêtre. La vue était si belle que tout le monde en faisait la remarque, mais ces gens ne voyaient rien. Personne n'ouvrait la fenêtre pour se pencher et regarder la roue qui pourrissait sur son axe. Personne ne voyait au-delà des rayons du soleil qui jouaient avec la surface de la rivière. Personne ne percevait ce qu'était en vérité cette eau verdâtre et noirâtre, emplie de créatures plus ou moins vivantes. Sortir de la cuisine, pénétrer dans le couloir, passer devant l'escalier, s'enfoncer plus loin dans la maison. Je suis tombée sur elle si soudainement que j'en ai été désarçonnée. L'énorme fenêtre du salon qui donnait sur la rivière. Dans la rivière, presque. Comme s'il suffisait de l'ouvrir pour que l'eau envahisse la pièce, submergeant la banquette qui courait sous la vitre. Je me souviens. Tous les étés, maman et moi assises sur cette banquette, les pieds sur des coussins, nos orteils qui se touchaient presque, un livre sur les genoux. Une assiette de gâteau quelque part, mais elle n'y touchait jamais. J'ai dû détourner les yeux. Ça me brisait le cœur de revoir cette fenêtre. On avait enlevé le plâtre des murs pour retrouver la brique en dessous. Et la décoration, c'était toit tout craché. Des tapis persans au sol, de lourds meubles en ébène, des gros canapés, des fauteuils en cuir, beaucoup trop de bougies. Et partout, des témoignages de ton obsession. De grandes reproductions encadrées. L'Ophélie de Millet, belle et sereine, les yeux et la bouche ouverts, des fleurs serrées dans sa main. Hécate de Blake, le sabbat des sorcières de Goya, son chien. C'est lui qui me fait le plus horreur, ce pauvre animal qui peine à garder la tête hors de l'eau. J'ai entendu sonner un téléphone et ça semblait venir de sous la maison. Pour suivre le bruit, j'ai traversé le salon et descendu quelques marches. Je crois qu'il y avait là un débarras avant, plein de bric-à-brac. Il avait été inondé une année et tout s'était retrouvé couvert de vases, comme si la maison faisait désormais partie intégrante de la rivière. C'était ton bureau à présent, avec ton matériel de photographie, des écrans, des projecteurs et des tables lumineuses, une imprimante, des papiers, des livres et des dossiers entassés par terre, des meubles à tiroirs alignés contre le mur. Et des photos, bien sûr, les tiennes, recouvrant chaque centimètre carré de plâtre. Un œil amateur aurait pu croire que tu étais fan des ponts. Le Golden Gate, le grand pont de Nankin sur le Yangtze, le viaduc du Prince-Édouard. Mais il faut y regarder à deux fois. Ce n'est pas le pont, le sujet. Ce n'est pas une fascination pour ces chefs-d'œuvre du génie civil. Si on regarde de plus près, on comprend qu'il n'y a pas que des ponts. Il y a aussi les falaises du Cap Bévézier, la forêt d'Aokigahara, Praikestolen, les endroits où vont les désespérés pour en finir. Des cathédrales de désolation. En face de l'entrée, des images du bassin aux noyers. Encore et encore et encore, sous tous les points de vue imaginables, sous tous les angles. Palais glacé en hiver devant l'austère falaise noire, ou étincelant l'été, luxuriante oasis de verdure, ou morne, couleur gris silex sous des nuages d'orage. Encore et encore et encore. Les images se fondaient les unes dans les autres en un tourbillon visuel écœurant. J'ai eu l'impression d'y être réellement, à cet endroit. Comme si je me tenais en haut de la falaise, à regarder au fond de l'eau, prise de ce terrible frisson, la tentation du néant.